Eh bien, nous recevons maintenant un frère et une sœur qui transforment un héritage colossal en un geste artistique d'une rare intensité. Imaginez hériter de 200 boîtes de souvenirs appartenant à votre père 10 ans après son départ. Que garder, que laisser derrière? C'est le point de départ de cette pièce de théâtre musicale, Recordar, c'est vivre à nouveau. Après avoir touché les publics en Belgique et au Pérou, l'œuvre arrive enfin à Montréal au Théâtre Outremont le 21 février prochain. Bonjour, buenos días, David et Maricel Mendes-Yepes. C'est ça?
Oui, buenos dias.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors, on vous rejoint où aujourd'hui?
On est à Québec.
À Québec.
Pour l'événement Rigaud.
D'accord. Ben, écoutez, Maricel et David, quel a été le déclic précis qui vous a fait passer d'un simple tri familial en des boîtes avec plein de souvenirs à la création d'un spectacle de théâtre musical?
Bon, d'abord, il fallait trouver un objectif parce qu'il y avait tellement de boîtes, comme vous avez dit, que pour se motiver, l'envie de faire un spectacle a jailli. Et puis, c'est aussi parce que le théâtre permet beaucoup de choses, permet tant de la musique que du récit, des arts visuels, que de la danse, que du chant. Enfin, tout est possible au théâtre. Et donc, c'était une manière de transformer symboliquement cet héritage matériel en un héritage immatériel.
Maricel, qu'est-ce qui t'a motivé, toi?
Ben moi, j'ai deux enfants, Lionel et Esteban, et ce qui m'a motivée surtout, c'est d'essayer de pouvoir leur transmettre quelque chose de ce qu'était notre père.
Mmh.
Et je trouvais que les boîtes, le contenu des boîtes ne représentait pas, c'était immobile, c'était figé, ne représentait pas en fait vraiment qui était notre père. On a essayé de faire ça, ses rêves, c'est des illusions peut-être. C'était une manière de transmettre à mes enfants.
Alors comment la double culture, parce que quand même ce spectacle et vous aussi, ce va du français à l'espagnol, comment ça habite la scène dans tout ce projet?
Ben, en fait, le spectacle, il est un peu comme nous. Et donc, il est principalement en français, mais aussi avec des parties en espagnol. On entend les voix de nos parents qui parlent en espagnol le plus souvent. Et il est plein de musique latino-américaine. Il est plein d'un héritage quand même de racines latino-américaines et en même temps d'un point de vue de personnes qui ont grandi en Belgique. Et donc, voilà.
Je vais revenir à la musique, mais je vais rester aussi dans ce qu'on appelle le domaine de l'autofiction, parce que c'est un peu ça aussi ce que vous présentez. Qu'est-ce que de jouer vos propres rôles à tout chacun et de manipuler vos propres souvenirs familiaux change par rapport à une pièce de théâtre que je dirais peut-être plus classique?
Ben, nous, on n'appelle pas trop ça l'autofiction, même si c'est clairement une... Il y a des liens, mais on parle plutôt de théâtre testimonial en espagnol.
D'accord.
Théâtre testimonial qui serait du théâtre témoignage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne fictionnalise... C'est-à-dire, à partir du moment où on écrit une pièce, il y a toujours de la fiction dans la mise en scène, dans l'organisation. Mais fondamentalement, tout ce qu'on raconte est vrai. Et donc, on même si dans l'autofiction, je pense qu'il y a aussi cette réalité-là, mais puisqu'il y a le mot fiction dans l'autofiction, parfois ça nous fait un peu tiquer. Donc, c'est plutôt du théâtre témoignage ou du théâtre du réel qui part de faits réels et d'expériences réelles de vie pour aboutir à une sorte de geste politique. Parce que je pense que ressasser le passé, essayer de transformer des caisses, transformer des grandes questions, c'est toujours pour éclairer le quotidien et pour éclairer le futur et le présent. Et donc, on a toujours l'espoir avec la pièce de pouvoir aussi aboutir à une forme de geste politique qui éclaire, qui questionne, qui transforme le présent.
Bien justement, votre père était une figure d'engagement politique. Dans quelle mesure, donc, son héritage militant influence-t-il la trame narrative de la pièce?
C'est vraiment présent c'est vraiment on s'est rendu compte que c'est vraiment le fil. En fait, nous, on a exploré le contenu des boîtes et c'est apparu dans la transformation comme vraiment un fil très important parce que c'est quelque chose qu'il nous a transmis en le voulant, sans le vouloir. On sait pas, mais c'est un des héritages qu'on a, un des éléments dont on a hérité et qui prend quand même une place importante dans nos vies. Nous, on se rendait pas compte de la place que cet engagement prenait dans nos vies à nous. On avait l'impression que c'était nos parents qui étaient des personnes très engagées. Et au fur et à mesure de la conception de la pièce, on s'est rendu compte qu'en fait, ils nous ont transmis quelque chose de ça.
Oui, je pense qu'il y avait... David, vous vouliez répondre? J'ai entendu un bruit.
Oh, non, bon. je soutiens tout à fait ce que dit Maricel et c'était aussi la question de Encore une fois, je pense que les grandes questions qu'on se pose quand on veut transformer la société, elles sont pas très différentes dans les années 60, 70, 80, au Pérou ou en Belgique que celles qu'on se pose aujourd'hui. Malheureusement, les défis face au conservatisme et au repli sur soi sont tellement grands que quelque part, ça rappelle aussi la période que nos parents ont vécue, sous dictature et terrorisme au Pérou.
Oui, parlons justement, ce qu'on peut juste, petite parenthèse, là, on parle de quelle époque et de qui à ce moment-là au Pérou?
On parle de nos parents étaient des intellectuels progressistes dans les années 70-80 au Pérou. Ils sont venus faire leur doctorat en Belgique à partir de 86. Et on parle de leur engagement politique, je dirais, à partir du début des années 70. Et le Pérou, malheureusement, à partir des années 80, va vivre une période terrible qui va être malheureusement tant gouvernée par le terrorisme que par la dictature.
Et c'est donc, vous tracez des parallèles aussi avec ce qu'on vit présentement, parce qu'il y a comme un retour du balancier, on dirait, hein?
Oui, en fait, on s'est rendu compte que, en fait, quand on a écrit la pièce avec Maricel et Ilias Metiwi, on se rendait pas compte à quel point la pièce était contemporaine. Et vu l'évolution du monde ces derniers mois, elle l'est encore plus. Et je crois que c'est aussi ça qui fait qu'on a la chance de venir aujourd'hui au Québec et de continuer la tournée en Amérique latine après. C'est parce qu'en fait, elle fait écho à des questions du présent que nous-mêmes, on ne s'était pas vraiment posées. On a été surpris nous-mêmes par le théâtre. Et c'est ça qui est très beau, c'est que chaque soir, on est re-questionné par, tant par le public que par la pièce nous-mêmes.
Justement, puisque vous parlez du public, vous avez joué déjà donc en Europe et en Amérique latine, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une différence dans la réception du public?
C'est intéressant parce que donc la pièce a été créée en 2024 et à ce moment et jouée principalement en Belgique pendant la première année. Et là, les retours du public qu'on avait étaient principalement liés à leur histoire personnelle, leur histoire de deuil, les histoires d'héritage, de famille aussi. Et quand on a joué au Pérou début 2025, on a eu plutôt des retours de l'ordre de la politique, des personnes qui nous parlaient de leur vécu de ces années-là, des personnes qui nous parlaient de la situation politique à ce moment-là au Pérou. Et puis quand on a rejoué la pièce de théâtre en Belgique, donc en 2025, là on a eu des retours politiques comme au Pérou avant. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que peut-être vu que le contexte a changé, ben peut-être que la pièce de théâtre touche différemment les personnes actuellement par rapport à même l'année passée, en fait. Enfin, il y a 2 ans.
On ressent beaucoup là, dans la culture actuelle, particulièrement avec l'influence des courants états-uniens, si vous me permettez, vous trompez, une urgence hein, de la performance. Il faut que l'art s'exprime, il faut. Mais j'ai l'impression que votre spectacle semble plutôt inviter à une forme d'introspection. Est-ce que c'est une sorte de résistance, une forme de résistance volontaire de votre part?
C'est une très bonne question. Je pense que oui. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de contradiction entre l'introspection et la résistance, entre l'engagement politique et le questionnement intérieur. Et la pièce, comme vous l'avez dit, elle jongle, elle marche vraiment sur deux jambes. D'un côté, l'intimité, on va dire les questionnements plus profonds intérieurs, existentiels, et de l'autre côté, la place qu'on occupe dans le monde. Et je pense que pour occuper le monde sereinement, et même pour l'occuper sereinement en luttant, vu les défis que vous mentionniez, on a besoin de créer un espace d'introspection qui est exigeant et bienveillant. Donc, dans la pièce, on se pose des questions à nous-mêmes, même quand moi j'interroge mon père. Fondamentalement, je me pose la question à moi. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Et je pense que c'est ce mélange d'exigence et de bienveillance qu'on a essayé de partager avec le public, parce que vivre en paix avec soi, c'est la première phase avant de pouvoir vivre en paix en société. Et comme vous dites, je suis content que vous ayez souligné ça. C'est vrai que c'est une pièce qui est assez engagée, mais qui ne perd jamais le fil du questionnement intérieur avant tout.
Et c'est
Oui.
aussi, ça naît du fait qu'on est vraiment frères et sœurs, du coup, sur scène, et il y a une intimité qui se crée aussi dans la coécriture de ce texte, de l'avoir écrit ensemble avec notre metteur en scène, Ilias Metiwi, également, mais aussi de nous voir ensemble. En fait, il y a une intimité, on laisse voir une partie intime de notre vie qui est notre famille, en fait.
La question qui me vient en tête spontanément, on a parfois hein, des conflits pas très résolus avec nos parents. Et là, ils partent et puis tout à coup, ben, ce genre d'exercice que vous avez fait, est-ce que ça vous a permis de faire la paix avec certains aspects de vos relations avec votre père?
Je pense que oui, mais je dis toujours que pour moi, le théâtre n'est pas, c'est pas une thérapie. C'est-à-dire, je déconseillerais aux gens de se lancer dans une pièce de théâtre juste après un deuil ou après une tragédie. Il faut laisser passer du temps. Et le temps, c'est vraiment le mot pour nous parce qu'en fait, on a créé la pièce quasi jour pour jour, 10 ans après sa mort.
D'accord.
Et c'est comme si les 10 ans avaient été nécessaires pour pouvoir le faire. Ça permet du recul, ça permet de l'humour. Et ça ne remplace pas la thérapie. J'encourage aussi les personnes qui vivent des disparitions ou des tragédies de pouvoir aussi faire de la thérapie. Toutefois, je pense que l'objet théâtral existe. Il peut avoir une dimension thérapeutique, mais alors collective. Parce que c'est vrai que moi, chaque soir que je joue la pièce, j'essaie de réinterroger mon père et j'essaie de le comprendre un peu plus et donc de vivre un peu plus en paix avec l'absence de réponse que j'ai, enfin, l'absence de réponse pour certaines questions.
Un peu
Je crois que oui.
un effet un peu cathartique finalement dans tout ça là.
Tout à fait.
Ouais.
Il y a la question aussi qu'on interroge dans la pièce de théâtre et qui est réelle, aussi dans la réalité, c'est comment vivre avec le silence en fait, comment vivre avec ce qu'on ne sait pas, les réponses qu'on n'a pas. Nos parents ont une histoire de migration. Moi, je suis née au Pérou, mais j'arrive en Belgique quand j'étais toute petite. Et donc, il y a une partie de notre histoire familiale à laquelle on n'a pas accès. On avait accès via notre père, on a accès encore via notre mère. Mais en perdant un de nos deux parents, en fait, on perd un accès à une partie de notre histoire familiale. Et la pièce de théâtre permet aussi de se poser la question de comment est-ce qu'on vit avec ce silence et comment est-ce que ce silence peut faire partie de notre vie et que ce soit apaisé.
Comment votre mère, justement, réagit-elle à cette pièce?
Donc notre mère a participé à tout le processus de recherche. Donc on l'a interviewée au départ juste pour mieux comprendre le contexte, la situation et tout ça. Ensuite, on lui a lu plusieurs extraits de la pièce de théâtre avant qu'elle soit terminée. Au début, c'était difficile pour elle. Elle a pu nous dire qu'elle aurait préféré qu'on n'ouvre pas certaines boîtes, qu'en fait, pour elle, pour pouvoir vivre, et continuer, elle a eu besoin de garder des boîtes fermées. Et de plus, elle nous a dit, moi, mes traumas, je les enferme dans des boîtes que je n'ouvre plus jamais. Et en même temps, après, au fur et à mesure de l'écriture, la première fois qu'on a joué la pièce de théâtre, c'était pour elle. Avant la générale, on a fait une représentation pour elle. Son point de vue a changé. On a aussi inclus des morceaux d'entrevues avec elle dans la pièce de théâtre, ce qui n'était pas prévu au départ. Et donc, il y a aussi un peu de sa voix qui est représentée dans le spectacle. Et maintenant, elle adore. Elle est venue une dizaine de fois voir la pièce de théâtre, je pense. Je pense qu'elle est fière et qu'elle est heureuse d'avoir traversé tout ça. Donc, elle a pu nous dire que finalement, elle était heureuse qu'on l'ait fait et que ça lui a permis de, elle, retraverser peut-être des repasser au travers d'événements qui lui ont provoqué de la souffrance, mais que maintenant, elle est plus en paix avec ça.
Eh bien, David et Maricel Mendes-Yepes, merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien à l'émission. Puis je rappelle que Recordar, c'est Vivre à nouveau. Ça sera présenté le 21 février prochain au Théâtre Outremont, ici à Montréal. Merci beaucoup.
Merci à
Merci
vous.
beaucoup.
Merci, à bientôt.